10h30 à Paris, 8h30 en temps universel. La dernière édition d'Afrique Matin. Bonjour Nemo Ampis.
Bonjour Juan Gomez, bonjour à tous. C'est une enquête détaillée, documentée et fournie sur les agissements de Wagner au Mali. Alors que la société paramilitaire russe privée a annoncé son départ du pays la semaine dernière, le consortium Forbidden Stories révèle des actes de torture et de sévices dans des camps de l'armée envers des civils, notamment. Le Sénégal, dont ce journal est l'ancienne ministre des Mines, Sofia Gladima, entendue par la commission d'instruction de la Haute Cour de Justice. Elle est soupçonnée de détournement de fonds de près de 200 millions de francs CFA. On vous en parlait récemment sur RFI. Juan vous en parlait. En Guinée, le recensement biométrique a été prolongé. En France, en revanche, il est suspendu pour les quelques 55 000 Guinéens de la diaspora. L'ambassade évoque des incivilités. Et puis, lui, reste en détention notre confrère et collaborateur Olivier Monodji au Tchad, accusé désormais d'entretien avec les agents d'une puissance étrangère. Torture et disparition forcée, plongée dans les prisons secrètes de Wagner au Mali. Voilà le titre de l'enquête réalisée par le consortium Forbidden Stories qui poursuit les investigations de journalistes assassinés ou empêchés. Forbidden Stories qui met en lumière les agissements de la société paramilitaire russe privée qui a dupliqué ses sombres méthodes d'enfermement et de torture de civils. David Bachet.
Il y en a sans doute d'autres, mais Forbidden Stories a identifié 6 camps militaires maliens utilisés par Wagner pour torturer des civils. Bafo, Nampala, Sévaré, Sofara, Niafunke et Kidal. Un humanitaire malien torturé à Nampala raconte la musique russe que ses bourreaux mettaient à chaque séance. Les simulations de noyades, les coups de bâton ou de câbles électriques. Il avait été arrêté avec d'autres hommes de son village où les soldats maliens et Wagner recherchaient un talkie-walkie utilisé par les djihadistes du Jnim. À Kidal ou à Niafunke, des prisonniers sont entassés dans des conteneurs, autrefois utilisés pour le matériel de la MINUSMA, la mission onusienne chassée du pays à la suite de l'armée française. En plus des coups et du manque de nourriture, les prisonniers souffrent de la chaleur et de la promiscuité. Les Wagner prennent eux-mêmes les gens sur le terrain, et les militaires maliens n'ont pas leur mot à dire, assure un officier malien interrogé sous couvert d'anonymat. Les autorités gouvernementales maliennes et russes et les mercenaires de Wagner officiellement sollicités par le consortium n'ont pas répondu.
Je vous rappelle que le groupe Wagner a officialisé vendredi dernier son départ du Mali, mais ses mercenaires sont largement recyclés au sein de l'Africa Corps, contrôlé par Moscou, et qui remplace désormais Wagner dans le pays. Le Mali, où le Conseil des ministres a adopté hier un projet de loi portant révision de la charte de la transition, un texte qui accorde au général Assimi Goïta un mandat de 5 ans renouvelable à partir de 2025. À l'instar de ses pairs de la fédération AES, précise le communiqué lu à la télévision d'État au RTM. Au Niger, fin des mouvements de grève des enseignants, un accord a été trouvé entre le gouvernement et leurs syndicats. Les enseignants, qui étaient en grève la semaine dernière pour la troisième fois en un mois à l'appel de la dynamique des syndicats du secteur de l'éducation et de la formation, ils demandaient l'embauche des enseignants contractuels à la fonction publique et le paiement de rappel de salaire. Le comité interministériel chargé des négociations a finalement levé le gel de ces deux mesures, ouverture du processus de recrutement avant la rentrée et compensation des arriérés par l'attribution de parcelles. Au Sénégal, l'ancienne ministre des Mines, Sofia Gladima, a été entendue mercredi par la commission d'instruction de la Haute Cour de Justice. Elle est soupçonnée de détournement de fonds publics de presque 200 millions de francs CFA dans le cadre de la gestion du fonds Force Covid-19, comme 4 autres anciens ministres de Macky Sall. Les précisions à Dakar de Juliette Dubois.
Selon l'avocat de Sophie Gladima, maître Antoine Beng, l'audition s'est bien déroulée. L'ancienne ministre et maire de Joël Fadiout a répondu de manière complète et sereine aux questions des juges. Selon maître Beng, le dossier porte sur 2 marchés passés lorsqu'elle était ministre. Le premier concerne du matériel qui aurait bien été livré. Le second, plus sensible, visait la construction d'une usine à Kédougou. Un acompte avait été versé pour sécuriser l'achat, mais le terrain n'était finalement pas disponible. L'usine n'a donc pas été construite. Maître Beng insiste, il n'y a pas eu d'intention de détournement. Les fonds n'ont pas été dissipés, ils sont toujours traçables et le prestataire a même proposé de rembourser la somme. Une demande de levée du mandat de dépôt sera introduite dans les jours à venir par la défense de Sophie Gladima, en plaidant une simple faute de gestion. La commission d'instruction doit désormais statuer sur un non-lieu ou un renvoi devant la Haute Cour de Justice. 3 autres anciens ministres ont déjà été entendus. Seule l'audition d'Ismaïla Madjorfa, l'ancien ministre de la Justice, reste à venir. Juliette Dubois, Dakar, RFI.
RFI Dakar, où il est 8h30. 34, tout comme à Conakry. On vous en parlait il y a quelques jours sur nos antennes en Guinée. Le recensement biométrique préalable à l'organisation d'une future présidentielle avait été prolongé jusqu'au 20 juin prochain face au manque d'engouement de la population. Un recensement en revanche suspendu en France où vivent, selon les chiffres de l'INSEE, 55 000 expatriés guinéens. L'ambassade de Guinée en France l'a annoncé évoquant des incivilités, mais nombre de membres de la diaspora venus se faire enrôler fustigent l'organisation de l'opération. Guillaume Thibault.
Très solennel, Senkou Sila, l'ambassadeur de Guinée en France, a indiqué, suite à des actes d'incivilité survenus au centre de recensement à Paris, la direction de cette salle a malheureusement mis fin à notre collaboration. Mais dès la diffusion de ce communiqué, les réseaux sociaux de l'ambassade se sont transformés en défouloir. Des témoins évoquent une forte affluence, mais surtout un dispositif insuffisant, manque de personnel, manque de formation, des tensions également car certains membres de la société civile et de l'opposition se sont vus un temps refuser l'accès avant d'être finalement reçu par les agents. Aucun mouvement de contestation n'a été signalé visant à empêcher ce recensement qui est au contraire salué notamment par le FNDC. Le porte-parole du mouvement en France, Djiba Camara, indique « C'est une étape importante pour aller à des élections. Nous encourageons les Guinéens de France à se faire recenser. » L'ambassadeur de Guinée, qui appelle au strict respect des règles de procédure, notamment à prendre rendez-vous en ligne, indique chercher un nouveau lieu pour poursuivre ce recensement important, je cite « pour prendre part à la vie démocratique de notre nation. »
Guillaume Thibault, et ce recensement en Guinée, justement, vous continuez d'en parler avec Juan Gomez. Juste après ce journal, dans la deuxième partie d'appel sur l'actualité. Bientôt 26 mois de guerre au Soudan et pour la première fois, l'armée du général Al-Burhan qui accuse le maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'est de la Libye, d'avoir aidé les paramilitaires du général rival et Meti. Cela après des combats le week-end dernier dans la région frontalière avec l'Égypte et la Libye dont s'est retirée l'armée. Le Soudan où les combats se poursuivent également dans les trois états du Kordofan, région centrale stratégique et porte d'entrée du Darfour. Reprendre cette région est vital pour l'armée si elle veut justement reprendre le Darfour, mais la mission s'avère difficile tant la défense des forces de soutien rapide y est acharnée. Ouda Ibrahim.
Les trois états du Kordofan sont devenus depuis plusieurs jours l'épicentre de la guerre au Soudan, d'où l'extrême intérêt porté par les deux camps sur cette région. En plus de jouir d'un poids stratégique du fait d'être située au centre du pays, cette région constitue également une version miniature du Soudan avec ses multiples tribus arabes, nubiennes et d'autres ethnies. L'armée a en effet depuis la reprise de Khartoum en mars dernier l'œil rivé sur le Kordofan. Elle tente en allant au combat de changer l'équation au Darfour, majoritairement contrôlée par les FSR. Maîtriser le Kordofan, surtout l'ouest, limitrophe du Darfour, lui permettra d'y pénétrer, mais le pari est loin d'être gagné. Plusieurs localités passent rapidement d'une main à l'autre pendant que les déclarations se contredisent sur l'évolution du contrôle du terrain. Selon plusieurs observateurs, il s'agit d'une nouvelle guerre d'usure que personne ne remportera.
Ouda Ibrahim. Et puis Olivier Monodji reste en détention au Tchad. Le directeur de publication du journal Le Pays et correspondant de RFI N'Djamena n'est plus visé pour complot contre l'État. La justice ayant décidé de réduire les charges à son encontre, il est désormais accusé d'entretien avec les agents d'une puissance étrangère. Des accusations passibles de 5 années de prison devant un tribunal correctionnel. Son avocat estime qu'il s'agit tout au plus d'un délit de presse basé sur un publi-reportage et espère une procédure rapide. De son côté, l'Union des journalistes du Tchad demande la libération de notre confrère ainsi que celle de deux autres personnes poursuivies dans la même affaire. Je vous propose d'écouter Serge Manassé, secrétaire général de l'UJT.
Au niveau de l'UJT, nous ne pouvons pas être soulagés tant qu'ils sont encore en prison. Ça demeure une injustice parce que du moment où nos confrères n'ont jamais commis un acte délictuel, on ne peut pas les garder en prison pendant autant de mois. Donc l'UJT ne peut pas s'arrêter seulement au niveau du soulagement. Nous voulons qu'ils soient purement et simplement libérés et quoi qu'il se passe, qu'on puisse les recevoir, les convoquer au tribunal en tant qu'hommes libres, qu'ils comparaissent libres devant un juge. On ne comprend plus comment nous fonctionnons ces temps-ci. Les médias tchadiens sont sur une ligne de crête. Tous les professionnels qui sont dans ce pays qui s'aperçoivent chaque jour que les espaces de liberté, surtout celle de la liberté d'expression et de presse, se rétrécit comme peau de chagrin. Donc nous craignons vraiment que d'autres intentions se cachent derrière cette arrestation de nos confrères.
Serge Manassé, secrétaire général de l'UJT, l'Union des journalistes du Tchad. Il était au micro de François Mazé. Je vous repasse la main, Juan Gomez.
Avec plaisir, Nemo Ampis. Bonne journée. Prochain grand rendez-vous avec l'actualité africaine à 12h30, temps universel. Afrique Midi, comme tous les jours, avec Nicolas Sûr.